Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Maureen.
Salut à tous.
Et d'ATH.
Bonjour, bonjour.
Sachant que ce très cher Maureen est malade, donc si vous vous demandez pourquoi il a une voix de canard, c'est normal.
Ouais, pour changer, hein, remarque, je suis tout le temps malade pour les podcasts.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons d'un mode pour World of Warcraft. On enchaînera ensuite sur Ken Levine et son prochain projet. Nous évoquerons la surprise Total Warhammer 2. Et c'est peu de le dire. On évoquera également le patch de Breath of the Wild qui vient de sortir, ainsi que celui de Mass Effect Andromeda. Nous enchaînerons ensuite sur un peu de Final Fantasy XV, n'est-ce pas, TH? Je sens que tu vas kiffer, n'est-ce pas? Et enfin, on terminera avec une petite news sur les plans d'Ubisoft pour Watch Dogs 2. Sans oublier notre jeu du moment, enfin plutôt notre add-on du moment, c'est le dernier add-on de Dark Souls 3. Ça y est, Dark Souls, c'est terminé. Moment de silence, s'il vous plaît.
Enfin, t'en flammes pas trop, hein, avec le jeu vidéo, tu sais jamais, ça peut revenir très vite. Hein. Si From Software, ils font un nouveau jeu qui se plante, c'est pas dit qu'il dit « Ah, en fait, Dark Souls, ouais, c'est fini, mais on va faire Soul Blade ou je sais pas quoi, tu vois.
» Allez, c'est parti, on va commencer avec donc un mode pour The World of Warcraft. Ça s'appelle Warcraft Tales. Vous le savez ou pas peut-être, mais World of Warcraft, c'est un de ces MMO qui propose pas mal d'outils de modding. Et le projet Warcraft Tales, c'était, et notez bien le passé, n'est-ce pas, c'était de refaire les quêtes du niveau 1.60, de les réécrire totalement, mais aussi de faire un doublage intégral. Sauf que Blizzard a dit nope. Et c'est un peu ballot parce qu'il se trouve que les personnes derrière le projet avaient déjà investi des sous.
Ouais.
Et c'est peut-être ça le plus embêtant, j'ai envie de dire.
Bah, c'est-à-dire que pour montrer quelque chose qui était déjà un petit peu abouti, parce qu'en fait, il y avait une campagne sur Patreon, en fait, qui demandait 2 500 $ par mois pour permettre à 4 développeurs de travailler dessus. Ils avaient déjà produit, il me semble, 3 chapitres. Et en fait, un chapitre, ça concernait une région de WoW. Et ça permettait, du coup, de réécrire toutes les quêtes dans une région, et il me semble, sur une storyline de chaque race. On sait pas exactement combien a déjà été dépensé et investi dans ce projet-là, mais c'est tout ça est parti par la fenêtre en un claquement de doigts, quoi.
Sachant que ils essaient de négocier avec Blizzard actuellement, quand même.
Ouais.
Mais d'un côté, je peux comprendre le fait qu'on veuille éviter que... Parce que c'est quand même un jeu massivement multijoueur, tu vois. Mmh. Donc le fait de réécrire des quêtes, avec tout ce que ça peut avoir comme impact sur le jeu, je peux comprendre la position bizarre, mais d'un autre côté, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est quand tu mets des outils de modding à disposition, pourquoi tu ne fais pas des guidelines, tu sais, pour dire, alors, on veut bien vous modder le jeu, mais jusqu'à un certain point. Parce que là, pour le coup, il y a des gens qui ont investi des sous et qui se retrouvent peut-être dans la merde. Enfin, tu vois, c'est... Là, par contre, sur ce point-là, je trouve ça pas très réglo, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'en plus... Vas-y, attache.
Le meilleur compromis, je pense, qu'ils pourraient trouver avec Blizzard, c'est soit qu'ils puissent modder et avoir ça sur un serveur privé, tu vois.
Ou même, soyons fous, tu vois, allons plus loin. Ils font un vrai partenariat où là, c'est carrément... grâce à la communauté, ben toutes les quêtes du niveau 1.60 sont refaites, c'est pour tout le monde, gratuit.
Ouais, mais après c'est que t'as un peu l'impression que en gros pour Blizzard, enfin moi je le prendrais comme ça, c'est que en gros ce qu'on a écrit nous nos quêtes c'est pas terrible et nous on va faire mieux que vous, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils le prennent mal, tu vois.
Ouais, après ça j'y crois pas trop parce que bon, je veux dire World of Warcraft il a quel âge et les gens qui ont écrit les quêtes du niveau 1.60, qui sont les premières quêtes du jeu quoi quand même. Mm-hmm. Enfin à mon avis ça fait longtemps qu'ils ont plus chez Blizzard, donc je pense pas que ce soit un problème d'ego. Sincèrement, surtout quand c'est une boîte si tu veux qui a l'habitude de mettre à disposition des outils de modding et qui, par exemple, ont laissé des gens faire des projets comme StarCraft Universe avec StarCraft 2. Moi, je pense que c'est dans la culture de la boîte, si tu veux. Donc, franchement, je pense pas que ce soit un... Je pense vraiment que c'est purement un problème de... Si tu réécris les quêtes, de facto, tu modifies un peu le lore, tu vois, quelque part. Et t'as une communauté qui a une version de l'histoire... Et l'autre partie de la communauté qui a cette version de l'histoire. Pour moi, le problème, en fait, c'est que ça soit pas toute la communauté qui y accède, quoi, ouais, fondamentalement.
Ouais. C'est ce que dit Blizzard, d'ailleurs, dans sa réponse à PC Gamer. Ils disent, en gros, on a besoin de protéger l'intégrité et l'expérience de jeu pour tous les joueurs. Et du coup, le fait que ça segmente en fait deux parties de la population, ça gêne beaucoup Blizzard.
Ouais, mais il faudrait que ce soit à disposition de tout le monde, quoi. Donc, j'espère en tout cas que ils arriveront à terme dans leur discussion avec Blizzard et qu'il y aura un accord, quoi.
Ouais.
Alors, on va parler d'autre chose maintenant. On va parler de Ken Levine. Ken Levine, je le rappelle, le papa de BioShock, tout ça, notamment.
Mm-hmm.
Mon cher Morel, on se plaignait il y a pas si longtemps, toi et moi,
ouais,
du fait que le système Nemesis de Shadow of Mordor, on était un peu déçus qu'il n'ait pas été repris ailleurs.
Ouais.
Notamment, moi, je me rappelle, il y a certains podcasts où je suis à peu près persuadé d'avoir dit que le système de Nemesis de Shadow of Mordor dans un jeu narratif, ça me plairait bien. Il se trouve que le monsieur Levine, il a parlé récemment, n'est-ce pas ? Notamment de son dernier projet. Et il aimerait bien réutiliser le système de Nemesis de Shadow of Mordor pour faire quelque chose de narratif. Un jeu narratif, mais non linéaire, et qui s'adapterait aux actions du joueur, quoi.
Ouais. Le jeu s'appelle d'ailleurs... Bah non, pardon, il n'y a pas de nom pour son jeu, mais son nouveau studio s'appelle Ghost Story, puisqu'il a quitté Irrational.
Mmh.
Et pour l'instant, on n'en sait pas trop sur ce jeu. Mais ouais, a priori, il veut utiliser les fondations de Shadow of Mordor, et il ne s'est pas trop renseigné sur la suite. Et en gros, lui, ce qu'il veut, c'est que le jeu reconnaisse les actions répétées d'un joueur. Pas forcément que sur un PNJ particulier, mais que le monde, en fait, réagisse à ce que fait le joueur. Donc c'est vachement plus ambitieux. Bon, pour l'instant, ça reste que des paroles. Hein.
En tout cas, il se pose clairement en opposition, par exemple, à Walking Dead. Ou Walking Dead, c'est clairement la philosophie du « on fait croire que tes choix sont importants, mais en vrai... »
Ouais.
Et où c'est des choix vraiment A, B, C, D, tu vois, enfin, c'est des embranchements, quoi. Là, c'est vraiment quelque chose de systémique en termes de narration. Depuis le temps que je dis que le jeu vidéo, c'est une matière vivante et qu'il faut créer des systèmes justement pour faire de la narration, ben voilà, il y en a un qui veut le faire. Et pour le coup, ce quelqu'un, c'est quand même une personne qui est reconnue dans le milieu pour faire des jeux avec une narration forte. Bon, après, on y adhère ou pas, hein, ça, c'est un autre problème. Donc du coup, en tout cas, je suis très, très, très intéressé. Et sur le prochain projet, je le surveillerai de près.
Après, tout ce qui est systémique, ça peut être super intéressant si c'est le truc qui est bien géré. Après, si, admettons, un système qui t'empêche de finir le jeu parce que t'as tué un personnage qu'il ne fallait pas, ou bien ce genre de choses-là, ou quelque chose qui casse carrément le jeu, ça peut créer des incohérences et des bugs à force de faire, tu sais, comme un château de cartes, ça se pète un peu la gueule selon ce qu'il va faire, quoi.
Bah, c'est surtout aussi, c'est sur un jeu narratif, faut quand même qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Et dans un jeu systémique comme celui-ci, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose qui se tient, quoi ?
Ouais, c'est exactement ça.
Et donc du coup, Total War Warhammer 2 qui sort du chapeau a annoncé le 31 mars, donc la veille du 1er avril, donc ce n'est pas un poisson d'avril. Et c'est un jeu en fait qui va mettre en scène quatre nouvelles races. Les hauts elfes, les elfes de la nuit, les hommes lézards et a priori les Skaven, même si c'est pas encore annoncé. Pourquoi en fait ils appellent ça Total War Warhammer 2? C'est parce que la nouvelle carte en fait va mettre en scène des conflits qui sont pas du tout dans la même zone géographique que ce qu'on a vu dans Total War Warhammer, le premier du nom. À savoir bien sûr qu'ils nous ont promis que si vous avez les deux jeux, les deux cartes vont s'emboîter. Bien sûr. Donc on sent un petit peu quand même la perspective assez DLC de ce Total War Warhammer 1.5 en fait, qui ne s'assume pas. Et je pense que ça va être assez gênant, surtout s'il est vendu à 60€ comme son prédécesseur, quoi.
À la limite, moi, que ce DLC-là soit plein pot, du moment que le contenu est similaire à la première campagne, pourquoi pas? Mais en fait, moi, ce qui me pose un problème, c'est que jusque-là, des DLC, on a un peu bouffé, en fait. Il y en a une chier, quoi.
Il y en a 12, je suis sur la page Steam, là.
Voilà, donc il y en a déjà 12.
Et pour tous les acheter, il faut que tu payes, en fait, du coup, une autre fois le prix du jeu de base. Donc 60€ plus 60€ si tu veux tous les avoir. Et il y en a certains qui sont gratuits, en plus. Hein.
Ça fait déjà 120 balles.
Mmh, ouais.
Et là, maintenant, on nous redit, on nous sort une pseudo-suite, tu vois, et on dit, bah, il va falloir re-raquer 60 balles. Attends, ça commence à faire cher, là. Et surtout que là, en plus, c'est des races, si tu veux, qui sont attendues, parce que notamment, je crois que dans le log, il y a les Skaven, qui sont un peu
Skaven, ouais.
La race qui est la plus attendue. Et on se dit,
bah, aussi.
Tu vas raquer encore plus, quoi. Alors, à la limite, moi, on m'aurait dit, tu raques 30€, très bien, sauf que là, on va en raquer 60, là. Concrètement.
Mais admettons, par exemple, pour comparer, par exemple, à un StarCraft où il y avait les trois extensions qui étaient sorties avec la campagne des Terrans, des Protoss et des Zerg qui étaient sorties séparément. Est-ce que les trois campagnes étaient sorties au prix d'un jeu de base, il me semble?
Il me semble que les extensions, c'était 40€.
Ouais, et du coup, est-ce que ça fait que, par exemple, sur Total War Warhammer 2, ça serait pas plus un truc au modèle de StarCraft 2, c'est-à-dire...
Ouais, sauf que StarCraft 2 te disait pas, un an après, voilà, c'est StarCraft 3 qui arrive.
Ouais.
Et surtout, StarCraft 2, t'as pas fait payer 3 milliards de DLC aussi, enfin, c'est ça le truc, quoi. StarCraft 2, t'as pas fait payer le DLC pour avoir le sang, StarCraft 2, t'as pas fait payer pour des mini-campagnes de merde qui sont là pour la déco et qui, en fait, introduisent des races... qui ajoute pas grand chose au gameplay, enfin voilà, enfin c'est ça le problème, c'est à la limite il y aurait eu un suivi sur le jeu de base et on t'aurait dit tu payes plein pot à chaque fois. Ouais. À chaque fois on te sort des add-ons et on te fait un suivi complet sur les jeux à chaque fois. Très bien, mais là concrètement, ils ont rentabilisé le moteur et en gros, ils te font payer des DLC plein pot à chaque fois, c'est plus possible quoi.
À savoir d'ailleurs que ils en ont prévu une trilogie en fait, parce que du coup, il y aura un Total War Warhammer 3. J'ai appris ça du coup en lisant la news.
Parce que pour moi, pour en fait un exemple un peu plus concret, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé avec Borderlands 2 et Borderlands 2 pre-sequel, où en vraiment pre-sequel qui était sorti, t'avais vraiment l'impression que ça avait l'air d'être un add-on fait sur le même moteur du jeu. Il y avait vraiment aucun ajout à part de changer de classe de personnage et de faire jouer le robot qui fait des blagues tout le temps là. Mais t'avais vraiment cette impression là, justement pre-sequel c'est pas très bien vendu par rapport à Borderlands 2 parce que les gens avaient l'impression de payer un DLC plein pot quoi, et c'est un peu l'impression ce que j'entends avec Total War Warhammer 2 quoi.
Ouais, c'est ça. On parlait de StarCraft 2, il assumait pleinement le fait que les campagnes Zerg et Protoss c'était des add-ons standalone.
Mais il te prévenait dès la sortie du premier en plus hein.
Oui.
D'accord.
Alors que là en un an, tu te rends compte qu'ils ont sorti 12 DLC.
Ça fait un DLC par mois quoi.
et derrière, on te dit ah au fait s'il vous plaît, vous allez payer le jeu plein pot et on vous a mis un 2 derrière pour la forme, tu vois. Enfin, si c'est ça le concept du suite,
vous êtes pas friand du tout, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont appris des meilleurs, puisque ils utilisent la licence de Games Workshop, et Games Workshop fait exactement la même chose avec ses jeux de figurines. Donc au final, bon, est-ce qu'on devrait vraiment être surpris? Je ne pense pas, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu mal au cul, quoi. On attendra quand même le prix du jeu, mais c'est à 60€, je pense que c'est quand même un peu gonflé.
Peut-être qu'après, tu vois, c'est vu que c'est Sega qui est derrière, ils se vengent pour l'échec de la Dreamcast, tu vois.
En tout cas, c'est prévu pour 2017, donc préparez-vous.
Et préparez-vous à sortir peut-être aussi tous les mois après la sortie de Total War Warhammer 2 les 60€ en plus pour le chèque DLC qui arrivera après jusqu'à Warhammer 3 et ainsi de suite.
Bon, on va passer à la suite. Et on va parler d'une série de patchs, n'est-ce pas?
Ouais.
On va parler d'un premier patch, qui est celui de Zelda Breath of the Wild. Alors, Nintendo a annoncé en grande pompe cette semaine qu'il sortait un patch surprise qui allait corriger le framerate. Alors, je veux bien croire que c'est le cas sur Wii U, sur Switch, mais par contre, sur Wii U, je vous le dis tout de suite, oui, il y a une petite amélioration, mais c'est très léger. Hein. En attendant, c'est toujours la merde sur le village Cocorico, et c'est toujours la merde sur le château d'Hyrule. Les deux qui ramaient le plus, ben ils rament toujours. Donc le plateau du prélude, il y a un léger mieux, mais encore par moments, ça arrive que le jeu craque. Donc il y a une amélioration, mais c'est à peine perceptible, quoi.
Et pour moi, en fait, cette news sur Zelda, ça fait un peu tomber le dernier bastion de jeux qui sortent pas optimisés Day One, quoi. C'est-à-dire que Nintendo, t'étais habitué à ce qu'ils sortent un jeu fini, et au moins par rapport à d'autres jeux qui sortaient où t'avais toujours des problèmes de bugs ou bien avec des problèmes d'optimisation, là t'avais un jeu qui tournait correctement.
Ouais, après, je rappelle quand même que j'ai joué 100 heures à Breath of the Wild et que j'ai pas eu un seul bug, donc dire qu'il est pas fini, si tu veux, ça me gêne un peu, quoi.
Non, mais oui. Non.
Mais... si tu veux, il y a quand même un niveau de qualitatif qui est différent de la plupart des jeux AAA qui sortent aujourd'hui, donc bon.
Va dire ça à Assassin's Creed Unity.
le pauvre. Mais après, ce que je veux dire, c'est que quand même, je parle vraiment en termes d'optimisation, de patch, alors que tu vois, normalement, un jeu Nintendo, quand même, quand il sort, t'as vraiment le jeu qui tourne nickel, t'as pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Là, t'as vraiment l'impression qu'ils ont dit, bon, le jeu, ça fait quand même 4 ans qu'il est en développement, on le sort et c'est bon, il reste le problème de framerate à sortir, on va corriger ça plus tard parce que c'est un truc qu'on peut régler avec des mises à jour. Et ça, c'est, je trouve, un petit peu dommage que Nintendo, maintenant, rentre un peu dans le même moule que tout le monde et que du coup, tu dois optimiser tes jeux avec des patchs à la sortie, quoi. Et du coup, j'espère que, tu vois, c'est, par exemple, pour le prochain Mario, ça va pas être le cas ou ce genre de choses-là, quoi.
Mm-hmm. Bon, après, le prochain Mario, c'est pas un jeu en monde ouvert. Parce qu'il faut voir une chose. Après, moi, je sais pas pour la Switch, hein, mais pour la Wii U, la problématique de ce Zelda, c'est que c'était peut-être un jeu Wii U au départ, mais que finalement, ils ont fait des trucs qui étaient possibles que sur Switch et que derrière, quand tu transposes ça sur Wii U, bah, ça fait un jeu qui rame, quoi.
Ouais.
Bon, d'ailleurs, qu'il y avait un autre patch qui devait arriver, mon cher ATH, c'est celui de Mass Effect Andromeda.
Alors, Mass Effect a subi de nombreuses moqueries sur Internet, vu de tout ce qui est animation faciale, ce genre de choses-là, on en a déjà parlé en longueur. Donc, le 4 avril, on va avoir une annonce de BioWare qui va nous dire sur quoi exactement ils vont bosser pour essayer d'optimiser le jeu et le patcher pour le rendre plus agréable. Et moi, je voulais savoir justement votre avis. Est-ce que les joueurs, justement, quand ils se plaignent par rapport à un jeu, est-ce qu'il faut changer véritablement le jeu? Par exemple, on peut se souvenir de Mass Effect 3 qui avait déçu tout le monde à la fin, et BioWare, à l'époque, ils avaient fait la Director's Cut, qui changeait un petit peu la fin en ajoutant ces choses-là. Est-ce que pour vous, en tant que développeur, si vous sortez un jeu, est-ce qu'il faut succomber, entre guillemets, à l'attente des fans, quoi?
Enfin, moi, je pense que quand t'aimes un peu ce que tu fais, t'as pas besoin des fans pour corriger ce que t'as fait. Parce que, encore, quand on parle de narration, si tu veux, je peux comprendre qu'on dise, par exemple, sur la fin de Mass Effect 3, non, on modifiera pas la fin.
Oui.
On a voulu que narrativement ça soit comme ça. Par contre, pour tout ce qui est technique, ben oui. Enfin, je veux dire, quand tu fais un jeu qui est aussi foireux, à moins que tu trouves ça super kiffant d'avoir des persos qui tirent avec des armes qui sont à l'envers, mais je pense pas que ce soit l'objectif, tu vois. Autant je pense qu'il faut garder l'œuvre telle qu'elle est sur le plan narratif.
Ouais.
Autant je pense que d'un point de vue technique, oui, il y a des choses à corriger, oui, et c'est normal.
Bah, je pense que il faut céder aux appels aux changements d'un point de vue technique, ça paraît évident. Parce que si t'as des joueurs qui te disent mais je peux pas jouer à ton jeu, ou alors ton jeu, enfin, il est pas bas de gamme, il est milieu de gamme par rapport à ce qu'un AAA est censé nous offrir, je pense qu'il faut quand même y répondre, au moins répondre à ces accusations-là. Après, tout ce qui est narration, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, et à mon avis...
C'est tellement subjectif, c'est ça le truc.
Voilà.
La technique, je veux dire, c'est objectif, tu vois. Enfin, les animations, elles sont foireuses, point. Enfin,
ouais.
Voilà, il n'y a pas à discuter. Alors que la narration, bon, moi, je trouve que c'est naze, mais tu vois, c'est mon avis.
Ouais.
Et s'ils veulent faire un truc de teen movie, ils ont le droit. Enfin, après, ça me plaît pas, mais ils ont le droit. Alors que la technique, c'est un truc qui est objectivement foireux et que tu peux corriger, donc autant le faire, quoi.
Ouais, parce que en fait, depuis tout à l'heure, en fait, je fais un peu l'avocat du diable pour sonder vos avis là-dessus. Après, moi, mon avis personnel sur la chose, c'est, je trouve ça très bien que justement le jeu change pour essayer d'être amélioré, quoi. Parce que voilà, enfin, d'après le retour de Mass Effect Andromeda, moi c'est pas un jeu qui m'attire plus que ça, alors que vraiment la trilogie originale c'était une de mes préférées sur la génération précédente. Et ce que je trouve assez embêtant en fait, c'est comme entre guillemets pour Zelda et pour tous les jeux qui sortent avec des patchs plus tard, c'est les mecs ils se rendent bien compte en fait qu'il y a un problème avant la sortie du jeu, c'est-à-dire qu'ils ont joué au jeu. Il y a même BioWare Edmond qui a joué à Mass Effect Andromeda, qui d'ailleurs s'est un peu brouillé avec le studio de Montréal, parce qu'il trouvait le jeu pas terrible. Et c'est que, enfin, quand tu testes ton jeu objectivement, tu vois bien qu'il y a des défauts. Par exemple, les défauts qu'on peut voir techniques sur les animations et tout ça, c'est des choses que l'équipe créative du jeu a bien vu avant que le jeu sorte dans le commerce, mais il décide quand même de le sortir comme ça. Et moi, c'est plus dans ce genre de choses-là que ça me pose un problème, tu vois.
Bon, on va passer à un autre truc, bah, pour le coup, c'est un autre patch. Mon cher ATH.
Ouais, bah.
Tu vas encore râler, c'est celui de FF13. Enfin, ah, FF13. Oula. Oula, le lapsus. C'est celui de Final Fantasy XV.
Oui, voilà. Non, celui-là, je vais pas râler parce que, honnêtement, OSEF, quoi. C'est-à-dire que Final Fantasy XV, c'est du passé, maintenant, pour moi. Donc, c'est le patch 1.06 qui corrige le chapitre 13. Enfin, corrige. C'est bien vite dit puisqu'il apporte quelques modifications, et quand je dis quelques modifications, voilà, vous attendez pas à un truc totalement remanié en fait. C'est tout d'abord, ce chapitre 13 va proposer deux embranchements, c'est-à-dire t'as le chapitre 13 classique et le chapitre 13 bis qui va te permettre d'avoir une autre route avec un point de vue différent sur les événements de l'histoire avec le personnage de Gladiolus.
Alors, sous-entendu, c'était de la merde, donc on va vous proposer un embranchement qui sera un peu moins merdique.
Voilà, après j'ai pas fait l'embranchement, enfin, le chapitre 13, en fait, tu sens vraiment que le chapitre 13 bis, il est là un peu pour vendre le DLC de Gladiolus. Dans le jeu de base, tu vois vraiment qu'au bout d'un moment, il part, et puis il revient, et c'est à ce moment-là, en fait, que tu joues justement Gladiolus. Avec l'embranchement de Gladiolus, il te propose le gameplay de Gladiolus, donc, entre guillemets, il essaie de te vendre le DLC de ce personnage-là.
Les malins.
Voilà. Il joue différemment de Noctis, c'est pas pareil. Par exemple, il a pas l'attaque Eclipse, qui permet de se téléporter, parce qu'il y a que le prince qui peut le faire. Et du coup, tu vois vraiment que c'est un petit peu une publicité, voilà. Ah, t'as bien aimé, comment tu joues Gladiolus? Bah, tiens, on te vend le DLC, là, qui est à côté, tu pourras le jouer un peu plus longtemps, et ce genre de choses-là. Donc, voilà.
Par contre, fondamentalement, ça répond à une de tes questions tout à l'heure. Ouais, c'est bien pour ceux qui n'ont pas joué au jeu.
Oui, c'est ça.
Les personnes qui ont déjà fini le jeu, qui va relancer le jeu pour se retaper les passages? Enfin, c'est limite trop tard, tu vois. C'est ça le problème.
C'est exactement ce qui m'était arrivé avec Mass Effect 3 à l'époque. Hein. Voilà. Moi, j'ai jamais refait la fin.
Voilà, c'est-à-dire en fait, le traumatisme était là. J'ai vu que la Director's Cut est arrivée. J'avais toujours ma save pour aller voir avant la fin, mais j'ai fait non, tu vois, enfin... C'est passé, je m'en fous quoi, ça a été raté sur le moment où j'ai fait le truc, du coup, c'est pas terrible. Et pour revenir à l'autre modification de Final Fantasy XV, le chapitre 13 en fait n'est pas structurellement différent, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, hein, la même base.
C'est juste qui te permettent de souffrir moins longtemps, de ce que j'ai compris, c'est-à-dire que tu peux le finir plus rapidement.
Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, entre guillemets, t'as un pouvoir qui se recharge plus vite et qui est beaucoup plus puissant, ça raccourcit un petit peu le temps que tu passes dans cette zone-là. Mais le problème de cette zone-là, c'est pas que ça, c'est que la structure du niveau en lui-même, c'est des couloirs moches, gris, horrible, avec un gameplay archaïque où tu ne peux pas te défendre dans le jeu, et donc t'as une espèce de phase pseudo-infiltration merdique qui est imposée. Ça n'a rien à voir du tout avec tout le gameplay du jeu que t'avais pu avoir auparavant, ce n'est pas du tout intéressant à jouer, mais même, je veux dire, même après de corriger ce chapitre 13 là avec ces modifications là, ça n'en fait pas Final Fantasy XV meilleur.
C'est ce qu'on avait dit à l'époque, il faudrait qu'il fasse comme Final Fantasy XIV, c'est qu'il faudrait qu'il refasse entièrement le jeu, quoi. Enfin, fondamentalement, c'est ça le problème, quoi, c'est... Et ça, à mon avis, ça arrivera pas, je pense, hein.
Non, mais faut pas trop rêver dessus. Mais, je veux dire, tu vois, enfin, tout ce qui est narration, quête FedEx inutile, enfin, etc., etc., on va pas refaire le test maintenant. Mais je veux dire, ces défauts, ils sont apparus bien avant que le jeu devienne linéaire. C'est-à-dire, même dans le monde ouvert, il y a des défauts qui sont tellement grands, des incohérences d'écriture incroyables, qui ne font pas de ce Final Fantasy XV quelque chose qui pourrait être meilleur en améliorant à petites touches. Comme tu l'as dit, c'est que, il faut qu'ils fassent comme Final Fantasy XIV, c'est-à-dire Final Fantasy XIV, il était sorti, le jeu s'est fait défoncer, et après ils ont sorti la Renaissance Realm Reborn, qui a permis vraiment d'améliorer pas une chose et tout ça, sauf que là tu ne peux pas faire la même chose avec Final Fantasy XV, parce que c'est un jeu qui est solo. Un jeu solo, oui. C'est-à-dire que tu vas pas, ils vont pas, Square Enix va pas dire renvoyez-nous votre copie de Final Fantasy XV, on va vous renvoyer la nouvelle copie.
Non, mais après tu peux faire une Enhanced Edition à la Witcher, en plus tu peux faire une communication là-dessus, enfin voilà. Mais le problème de Final Fantasy XV, fondamentalement, c'est que, bon, toi tu n'as pas aimé certes, mais quand tu regardes les notes métacritiques et que tu vois les notes de la presse en général, c'est quand même un jeu qui globalement a été bien reçu, quoi. FF14, il s'est fait unanimement bâcher, quoi. Enfin, fallait voir ce que c'était, quoi. À l'époque, c'était une purge. Et en plus, ils avaient un truc qui permettait de mesurer le taux d'insatisfaction. C'était l'abonnement. Et quand tu vois que tes abonnements, bah c'est pas top, t'es bien obligé de le modifier le jeu. Alors que là, bon, ça y est, le jeu il est vendu, tu vois, donc c'est trop tard.
Et c'est exactement là où je voulais en venir par rapport à Final Fantasy XIV, c'est que Final Fantasy XIV, vu que c'est un MMO, c'est un gagne-pain qui dure sur le long terme, du coup, ils sont obligés de proposer un contenu de qualité pour que les gens puissent payer. Alors que là, Final Fantasy XV, les gens finalement ils l'ont payé. Et du coup, mis à part de demander le DLC qui sort, mais qui va pas te rapporter un revenu tous les mois régulier, c'est fini, quoi.
Moralité, attendez le remake.
Ouais, bah, putain.
Bon, je vous propose qu'on passe à la suite.
Ouais.
On va terminer avec Watch Dogs 2. Alors, Ubisoft a fait plein d'annonces récemment. Il prévoit plein de contenu, notamment du contenu gratuit. Alors, on va pas vous faire le détail de tout le contenu qu'il y a. Je vous mettrai un lien vers le blog d'Ubisoft, n'est-ce pas ? Par contre, je voulais faire du lobbying auprès de mon cher Morden. Du coop sur Watch Dogs 2, ça te tente ?
Bah écoute, éventuellement.
Coop à 4, je précise.
Ah, il me semblait avoir lu que en fait, c'était deux équipes de deux. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne idée de... Ils l'expliquent dans leur post de blog, en fait, c'est qu'ils écoutent les retours des joueurs et les joueurs leur disent on a envie de plus de contenu multijoueur. Mmh. Et à la base, en fait, ils avaient prévu ce contenu-là comme faisant partie du Season Pass. Mmh. Et au final, ils ont changé. Ils vont faire un DLC plutôt solo qui s'appelle No Compromise, qui va sortir en avril. Et à la place, du coup, ils mettent le contenu coop et multijoueur en ligne gratuitement pour tous les joueurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas une mauvaise idée.
Bah, ils essayent de faire comme GTA, j'ai envie de dire. GTA, il est encore dans le top des 20 Steam aujourd'hui, il se vend encore par camion sur console, et pourquoi il se vend par camion ? Parce que c'est un jeu, entre guillemets, à service, ce qui est une tendance des dernières années, c'est-à-dire que voilà, de plus en plus de gens achètent le jeu parce que le contenu, il est quasi infini, quoi.
Bah, surtout quand on parle de GTA Online, quoi. Et du coup, oui, c'est vrai que ça y ressemble. Et ils ont tout à fait raison dans leur analyse en disant que oui, si on proposait ce DLC coop qu'aux gens qui ont payé le Season Pass ou qui vont payer le DLC, on aura beaucoup plus de problèmes au niveau du matchmaking, etc., etc., parce que forcément, la portion de la population qui a le jeu et le DLC est beaucoup plus congrue que toute la population qui a le jeu. Du coup, ça va être plus intéressant et je trouve que c'est la bonne stratégie à avoir.
Je te confirme par ailleurs que c'est bien 4 joueurs ensemble.
D'accord. Voilà. Ok, bah c'est cool ça.
Ouais, mais après moi j'y vois vraiment une campagne de communication. Pourquoi je dis ça, c'est que Watch Dogs avait cartonné. Watch Dogs 2 n'a pas été vendu à hauteur des attentes de Ubisoft. Du coup, on sent bien qu'ils essaient de remettre un petit peu le jeu sur le devant de la scène en proposant d'ailleurs une démo qui peut être jouée pendant une bonne partie du début, avec du contenu qui est ajouté additionnellement gratuitement, alors que à la base ça devait être un truc payant. Enfin, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé avec Titanfall 2. Titanfall 2, le jeu, c'est malheureusement pas vendu. Ils proposent du DLC gratuitement pour que justement ça attire un peu des gens et que se disent ah bah finalement c'est cool, on a du contenu qui arrive régulièrement, etc. Enfin, je trouve que c'est une bonne communication.
Ouais.
Tant que ça apporte du contenu en plus pour les joueurs, c'est bien. Mais je sens bien que si le jeu avait fait un carton monumental, Ubisoft me l'aurait vendu plein pot, quoi.
Ouais, c'est pas sûr, mais après, ça c'est une stratégie qui ressemble beaucoup à la stratégie qu'ils ont adoptée l'an dernier avec Rainbow Six Siege.
Sur lequel boss m'a mis, hein, je précise au passage pour que ce soit clair.
Effectivement.
Voilà, une petite OPSP au passage.
Le jeu a quand même chopé pas mal de critiques au moment de sa sortie, notamment autour de son netcode. Et au final, en fait, le jeu a réussi à quand même faire un effet boule de neige, en fait, grâce à notamment sa communication, et puis bah bien sûr à ses bug fixes. Mais aussi au fait que bah il y a toujours quelque chose en fait de nouveau dans le jeu et ça ressemble un petit peu à ça à ce que fait Ubi avec Watch Dogs 2 et je pense que c'est une stratégie qui va se multiplier avec les prochains AAA, surtout des AAA qui ont la possibilité de bah d'offrir du multijoueur quoi.
Après d'une manière très cynique, de toute façon ils ont pas le choix, hein.
Oui,
parce
carrément.
Que quand en face t'as GTA 5,
ouais,
qui sort du contenu gratuit tout le temps,
c'est sûr,
soit tu fais ça soit tu te fais rouler dessus. Bon, voilà.
Bah, c'est soit tu fais ça, soit t'abandonnes totalement ton jeu à la mer, quoi.
C'est ça.
Ouais, mais après, tu vois, Rainbow Six Siege, c'est un jeu vraiment qui est vendu en tant que service, c'est-à-dire qu'ils te vendent du contenu sur la longueur. Et du coup, ils ont un intérêt vraiment à ce que les joueurs reviennent, parce que c'est vraiment que du multijoueur. Alors que tu vois, Watch Dogs 2, tu peux très bien faire le solo, jouer au jeu, puis le revendre ou bien terminer. Donc du coup, tu sens vraiment qu'ils essaient quand même d'insister sur le fait que les gens aillent en boutique se procurer le jeu.
Non, mais l'objectif à terme, c'est quoi ? C'est d'avoir un mode en ligne justement qui est suffisamment développé pour concurrencer GTA V. Les gens aujourd'hui, ils achètent pas GTA 5 pour le solo. Hein. Ça, ouais. Ceux qui ont voulu le solo, ça fait longtemps qu'ils l'ont fait, tu vois. Ils achètent GTA 5 parce qu'ils ont leurs potes qui sont sur GTA 5. Et qu'est-ce que cherche à faire Ubisoft en ce moment? Bah justement, ils essaient de transformer Watch Dogs 2 en jeu à service. C'est-à-dire que, ok, bon, il y a un solo, mais en fait, en vrai, on essaie de développer le multijoueur parce qu'on veut que les joueurs viennent pour jouer au multijoueur et qu'ils emmènent leurs potes avec eux, quoi.
Ouais, mais après, je veux dire, voilà, enfin, sur YouTube, tu tapes GTA 5 vidéo online et Watch Dogs 2 multijoueur, enfin, y a pas photo, quoi. Tu sens vraiment que les gens, ils font plus de streams sur un GTA online, tu vois, même les gros streamers, alors que des gros streamers qui font du Watch Dogs 2 en multijoueur, personnellement, je connais pas, quoi.
Ah ouais, mais je dis pas que ça va être un succès. Ce que je dis, c'est que Ubisoft cherche à faire du GTA 5. Ouais. C'est tout.
Bon, bah après, je leur souhaite bon courage, quoi.
Bon. Je vous propose qu'on passe à la suite, messieurs. De Morane, je crois que tu vas devoir nous quitter.
Ouais, je vous dis à bientôt, les amis, et puis bon test du DLC de Dark Souls 3.
Tu pars parce que tu n'aimes pas Dark Souls, c'est pour ça?
Oui, bah c'est surtout que je suis pas du tout, on va dire, une référence sur la question. Donc je vous laisse faire tous les deux. Salut tout le monde.
Salut, Morane.
Bon, on va passer donc à notre critique de la semaine, n'est-ce pas? Et notre critique de la semaine, c'est le dernier DLC de Dark Souls, le dernier DLC de la saga, The Ringed City.
The close of the Age of Fire. The Ringed City is said to be at world's end. Past this heap of rubbish, as far as one can go, from every age and every land. It actually sort of lends credence to the old rumors that the Ringed City rests below it all.
Ce dernier DLC, c'est un peu un vaste hommage à toute la série. Et quand je dis toute la série, j'inclus Demon's Souls dedans. C'est un DLC qui est plus long déjà que le précédent. Alors, je serais bien incapable de vous donner une durée de vie parce qu'il se trouve que j'ai galéré comme un ouf sur certains boss et du coup, j'ai bien dû passer une vingtaine d'heures dessus, mais en vrai, ça doit pas du tout faire ça. Je dirais 10 heures max, mais vraiment, c'est une estimation au pifomètre. Hein. C'est un DLC qui vaut le coup. Parce que c'est un DLC qui a une direction artistique de psychopathe, c'est un DLC qui renoue avec certains concepts de game design de Dark Souls 1 notamment, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des niveaux un peu trop linéaires comme dans Dark Souls 3, tu vas avoir vraiment un truc tortueux, tu vois, où par un moment tu vas te retrouver dans une zone que t'avais vu un peu plus tôt, mais t'as fait un détour de 1000 km pour y arriver, et franchement... On va casser le suspense tout de suite. J'ai pris énormément de plaisir. Je vous le recommande les yeux fermés. Mais bon, j'en profite pour avoir mon cher ATH avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que tu as des questions par rapport à ce DLC?
Ouais, d'abord, première question concernant ce DLC. Tu as parlé un peu de durée de vie et de contenu. Mais moi, je voulais savoir par rapport à un Dark Souls 3, pour donner un ordre d'idée, c'est-à-dire ça ferait pour toi un tiers de Dark Souls 3?
Ah non, pas du tout. Absolument pas. Même pas un tiers. C'est une zone. Après, je sais que les zones n'ont pas toute la même taille, donc c'est difficile. Moi, je dirais que ça correspondrait à toute la zone du château. T'as une première zone apéritif, un peu comme, tu sais, quand tu démarres le jeu, le début du château avec la cour, etc. Et puis derrière, tu as la zone à laquelle tu accèdes beaucoup plus tard dans le jeu, à laquelle tu peux accéder aussi beaucoup plus tôt si tu réussis à battre le boss, mais on va dire beaucoup plus tard. Voilà, pour moi, ça correspond au château au global, quoi, si tu veux, à peu près.
D'accord. Après, j'ai une question un petit peu mensongère parce que je connais déjà la réponse, mais je vais quand même la poser pour les auditeurs qui se posent la question, c'est-à-dire comment ça se passe justement pour accéder à ces DLC. Est-ce que c'est un contenu qui est ultra caché comme par exemple Dark Souls premier du nom, ou si tu n'avais pas une soluce, clairement tu ne pouvais pas tomber au pif sur le DLC et du coup c'était un petit peu compliqué pour un truc que t'avais acheté, comment ça se fait justement pour accéder à ce DLC là, est-ce que il faut un certain niveau d'expérience si c'est pas trop compliqué?
Alors c'est plus une question de niveau d'expérience que de contenu caché. Il faut savoir que c'est la suite directe du précédent DLC, donc commencez par celui-là si vous l'avez pas déjà fait. Et c'est vraiment une question de niveau, comme dans tous les DLC de Dark Souls. Hein. C'est pour ça qu'Atesh le sait, parce qu'il a fait, il a retourné la série, donc il sait par cœur comment ça marche. Hein. Il faut avoir un personnage assez haut level. Bon, moi après c'est difficile d'évaluer pour moi parce que je suis arrivé avec un personnage niveau 120, donc bon.
Et tu arrives avec un personnage niveau 120 et tu as quand même eu des difficultés.
Après il y a une partie où c'est parce que je suis mauvais, hein,
oui, non, mais voilà, honnête. Mais quand même c'est pas une promenade de santé.
Ah oui, par contre comparé au précédent DLC et même au jeu au global, il est beaucoup plus dur. Moi je trouve que on retrouve un peu de difficulté de Dark Souls 1, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que il y a des passages qui piquent, quoi, quand même. Notamment il y a un passage dans la seconde moitié du DLC, on va dire. Mm-hmm. Les bonfires sont beaucoup plus espacés en fait. Et là à un moment, il y a un passage où on te met 3 milliards d'ennemis sur la route. Et t'es là, oui, il est le bonfire. Oui, il est le bonfire, pitié, je veux un bonfire, pitié. Et ça c'est une sensation que j'avais pas du tout ressentie dans Dark Souls 3. Hein. Si vous vous rappelez du test, c'était un peu la balade de santé, quoi, on
si,
va
si,
dire.
À part à un certain moment, la zone qui est secrète. Il y avait un petit passage comme ça juste avant d'arriver à cette zone-là.
En fait, globalement, cette zone-là, elle m'a pas trop posé problème, sauf il y a un truc qui est optionnel, t'es pas obligé d'y aller. Où là, ils ont trouvé ça fun de mettre 3 milliards d'ennemis pour aller choper un truc optionnel. Et je trouve que c'est quand même plus équilibré que ce passage-là, si tu veux. Parce que j'ai plus galéré parce que j'avais pas le jeu dans les doigts, en fait.
Ouais.
Et c'est-à-dire que quand tu reviens sur Dark Souls, alors que t'es sur Nioh, c'est difficile. Parce que Nioh est un jeu beaucoup plus speed, avec pas la même configuration de boutons. Et que Dark Souls 3 a une configuration de boutons un peu particulière.
Et c'est aussi plus lent aussi en termes de...
Ah ouais, je veux dire, t'as l'impression de jouer un 3 tonnes, quoi. Ouais. C'est assez violent, quoi. Du coup, pour reprendre tes habitudes, etc., c'est assez long. Le gros problème, par contre, de ce passage-là, enfin, dans le DLC, c'est que c'est un moment, tu sais, où on te met plein d'ennemis. Sauf que, à la fin, au lieu de te mettre le bonfire bien en évidence, tu vois, on te le planque dans un coin. Et ça, c'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est petit, c'est mesquin.
Ouais, après c'est le petit côté coup de pute de From Software où tu sens qu'ils aiment bien jouer avec les gens.
Ouais, mais que les ennemis soient relevés, ça me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est que en termes de level design, on te planque le bonfire derrière, que tu dois te retaper tout le passage parce que t'as pas retrouvé le bonfire à temps, quoi, tu vois. C'est juste que t'as pas tourné dans la bonne direction. Au lieu d'aller à droite, t'allais à gauche ou t'allais tout droit. Et là, tu te fais baiser. Quand t'as galéré comme un malade, c'est pas amusant. T'as envie d'arrêter de jouer. Mmh. Concrètement.
Mais ça, c'est des trucs que From Software, ils aiment bien faire ça. Dans la série, ça a été fait à plusieurs reprises. Pour citer Dark Souls premier du nom, quand tu vas dans les catacombes, c'est déjà arrivé plusieurs fois que, tu vois, il y avait le feu était caché à des endroits pas très logiques. Par exemple, pour accéder aux forgerons de ces catacombes-là, si tu sais pas comment on va y accéder, c'est quasiment
impossible.
Ah ouais,
c'est d'ailleurs pour ça que j'avais pas trouvé ce passage intéressant. Non, mais voilà, après, c'est des choix de game design. Je comprends que ça plaise à des gens, mais moi, c'est le genre de truc qui me plaît pas, tu vois. Mmh. Parce que je veux bien galérer sur un passage. Mais derrière, arriver à passer le passage et mourir comme un con parce que le machin était planqué, moi ça me plaît pas. Mais bon, on va pas débattre 3 heures là-dessus. Ça, c'est mes préférences personnelles, quoi, on va dire.
Et du coup, qui dit Dark Souls dit forcément combat de boss. Est-ce que les combats de boss de cet épisode-là sont intéressants? Sont-ils nombreux? Comment ça se passe dans ce DLC concrètement?
Alors, on va dire qu'il y a 4,5 boss. Voilà. Pourquoi je mets une virgule? Parce qu'il y en a un, c'est...
C'est un nain.
Enfin non, c'est pas un nain, il est très gros d'ailleurs, mais disons que c'est comme un boss, mais un boss, on va dire, vite fait.
Okay. Voilà.
Mais par contre, t'as 4 autres vrais boss, dont un qui est caché sur les 4. Et ça sera ma déception du DLC, parce que autant, globalement, on va dire, j'ai rien à redire sur ce DLC. Si vous avez aimé la saga, ça va être un pur moment de bonheur parce que, je veux dire, comme je l'ai dit au début, il y a des références partout en fait.
Mm-hmm.
Que ce soit en termes de lore, que ce soit en termes de level design, enfin, à tous les coins de rue, t'as des références à toute la série. Donc c'est vraiment un concentré de la série sur un DLC. Par contre, pour moi, le point noir de ce DLC, c'est que, ben, ce boss caché, c'est un peu de la merde, quoi. faut dire ce qui est. Alors concrètement, si vous avez détesté le boss caché du jeu de base, bah vous allez pas aimer celui-là. Et pourquoi les gens n'aimaient pas le boss caché du jeu de base? Parce qu'il avait une caméra de merde. C'est-à-dire que la caméra elle pétait un câble et donc du coup tu devais jouer sans le lock de la caméra, mais le problème c'est que si tu joues sans lock de la caméra, comme le boss bougeait rapidement, ben c'est un peu la merde aussi, tu vois. Et là c'est un peu pareil mais en pire, c'est-à-dire qu'en gros le boss caché c'est un espèce de truc absolument immense qui bouge rapidement, il rampe, et le problème c'est que la seule zone safe, à peu près safe hein, parce qu'elle est pas vraiment, il y a des, on va dire qu'il y a des attaques qui peuvent toucher à cet endroit-là, mais la seule zone à peu près tranquille, c'est sous son ventre. Et donc quand t'as un boss immense qui rampe, je te laisse deviner ce qui se passe, c'est-à-dire que tu vois à travers le corps du boss, tu sais, tu vois des morceaux de son corps et tu vois à travers. Ça te sort du jeu quoi, entre guillemets quoi, c'est très désagréable. Et surtout pour moi le plus gros problème de ce boss, au-delà des soucis de caméra, c'est un boss qui demande pas spécialement de skill, c'est surtout un boss qui demande énormément de patience et d'anticipation, quoi, on va dire. Et c'est un sac à bavé, quoi. C'est-à-dire que il est interminable, mais interminable. Et c'est un boss, en gros, pour l'apprendre, ben, tu vas faire comme moi, tu vas faire des sessions où tu vas écouter une émission, pas instant, et où tu vas attendre qu'il te rentre dans les mains, quoi, entre guillemets. Et ça, c'est pas très très intéressant.
Ouais. Et mais du coup les autres boss parce que tu as là,
alors par contre ça, les autres boss génial. Le premier boss du DLC, il a un gimmick qui fait que en fonction de la manière dont tu le gères, la deuxième phase du boss c'est pas du tout pareil. Le tout dernier boss c'est vraiment un boss à skill quoi, c'est-à-dire que c'est un boss que tu prends plaisir à apprendre, c'est un boss qui est énormément basé sur l'esquive. Et quand tu l'as fini, c'est parce que vraiment tu l'as maîtrisé et que t'as du skill, quoi. Et c'est un boss qui fait plaisir aussi parce que c'est un boss, si tu veux, qui est rapide, qui demande de la réactivité, mais qui en même temps reste lisible. Et moi, c'est un des gros problèmes que j'avais, tu sais, avec le jeu de base. Mm-hmm. C'est qu'il y avait certains boss que toi t'as aimé par ailleurs, mais que moi, ils me posaient problème parce que je trouvais que... Enfin, moi, j'arrivais pas du tout à les lire, en fait. Alors, je parle de Sullivan. Hein. Pour que ce soit clair, Sullivan, c'est le seul boss du jeu que j'ai fait avec quelqu'un pour m'aider parce que j'ai redshuit.
Alors que moi, c'est un combat que j'ai vraiment fait... dans ma home quoi, mais c'est vraiment un de mes combats préférés du jeu quoi, enfin tu vois, c'est selon les attentes des joueurs. Moi je trouve que Sullivan, c'est pour moi c'est un des boss les plus réussis quoi, dans son design et même son comportement d'attaque, ses patterns, sa rapidité, il te harcèle à chaque fois, enfin c'est un boss qui pour moi te pousse à t'exceller à ce moment là quoi.
Donc ce boss du DLC, c'est un boss où il va falloir faire attention parce que il a une allonge de psychopathe. C'est vraiment un boss qui est basé sur l'évitement, sur l'attention, qui est assez long aussi mais qui est pas non plus trop long quoi, tu vois, qui tu sens qu'il est accessible en fait, c'est ça le truc. Tu sens que tu vas pouvoir l'avoir, que tu l'as dans les mains et que si tu persistes, tu peux le tuer quoi. Et pour moi vraiment, c'est un des boss les plus équilibrés de la série, même si je garde une préférence pour le boss du précédent DLC qui pour moi a l'avantage d'être à la fois intéressant d'un point de vue de gameplay, mais en plus dégage une classe comme j'en ai rarement vu dans la série, alors que celui-là est un peu plus quelconque par contre d'un point de vue mise en scène et tout ça quoi.
D'accord. Les Dark Souls, ils ont cette particularité justement de pas avoir de musique pendant le reste du jeu, et ça arrive vraiment que quand il se passe des trucs importants comme par exemple un affrontement contre un boss. Est-ce que là tu as trouvé les compositions de ce jeu-là à ce moment-là intéressantes ou par rapport au jeu de base, c'est comment ça se passe en fait?
Oh bah c'est à la hauteur de Dark Souls hein, j'ai envie de dire. Le jeu ne m'a jamais déçu à ce niveau-là. Donc oui, les musiques sont marquantes, oui, les musiques sont géniales. Enfin, pour être très clair hein, à part le boss optionnel qui est une déception, tout le reste pour moi réussi quoi.
Et parce que tu vois dans Dark Souls 3, on sent vraiment que c'était un jeu un petit peu aussi hommage à la saga justement des Souls. Et du coup, ce que j'ai l'impression de comprendre avec ces DLC-là, c'est que c'est un DLC qui rend aussi hommage à la série entière et qui va un peu plus loin que, par exemple, le jeu de base. Et je voulais savoir, notamment, par rapport à tout ce qui concerne le lore du jeu, si tu avais trouvé ça intéressant pour les gens qui veulent vraiment chercher le petit détail. Est-ce que tu as des réponses sur certaines choses qui t'es laissé en suspense, par exemple, dans le jeu de base ou...
Ah, c'est une mine d'or, ce DLC. C'est un DLC qui interroge énormément sur la question du temps. Tu sais, on a toujours su que le temps dans Dark Souls c'était une notion très relative, mais là pour le coup, il t'interroge vraiment sur cette question-là, quoi. En plus, bon, l'avantage de ce DLC, c'est que moi, il corrige un des reproches que j'avais vis-à-vis du jeu de base, c'est-à-dire que un, il corrige le level design, et deux, il corrige aussi une zone, enfin, qui est la dernière zone du jeu qui était pas du tout exploitée. Et là, justement, tu sais, je m'étais dit, par rapport au lore, c'est dommage, on a ce passage-là un peu énigmatique, tu vois, où on voit des trucs et on comprend pas trop. Et là, pour le coup, il explique ce qui se passe et il rajoute des trucs sur le lore. Franchement, d'un point de vue lore, c'est du caviar. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que ils ont trouvé des nouvelles manières de raconter du lore, quoi. C'est-à-dire que maintenant, t'as du lore dans les attaques des ennemis, quoi. Ça en est à ce niveau de détail-là, quoi. Enfin, les mecs sont des psychopathes.
Ça, c'était déjà un peu le cas avant aussi, dans ce que tu dis là, avec, par exemple, quand tu rencontrais une ombre qui t'envahissait, mais pas une ombre d'un autre joueur, c'était une ombre qui était scriptée par le jeu. À un certain moment, et t'avais un ennemi qui t'affrontait. Et par exemple, dans Dark Souls 3, tu retrouves pas mal de personnages qui ont des armes ou bien des armures qui correspondent à un certain personnage et qui font justement les mêmes movesets que lui, tu vois.
Ouais, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus subtil. C'est la même arme, donc fatalement, c'est les mêmes movesets, tu vois. Mais là, c'est au niveau du pouvoir, quoi, carrément.
D'accord.
Après, c'est un DLC qui fait un coup, parce que bon, voilà, c'est la fin. Mon seul peut-être petit reproche, ce que j'aurais bien aimé, moi, c'est une petite conclusion pour marquer le coup, quoi.
Mmh.
Là, par exemple, moi, je suis dans une situation où j'ai pas fait de New Game Plus. J'avais fini le jeu, mais j'ai attendu les DLC, j'ai pas recommencé le jeu. Et du coup, je me retrouve à finir le DLC, à aller parler à un personnage, et puis, voilà, j'ai plus rien à faire. Au départ, je m'étais dit, bon, ok, je vais aller refaire le dernier boss pour marquer le coup. Sauf que quand tu l'as battu une fois, en fait, tu peux pas le retuer. Et tu peux pas revoir la cinématique de fin.
Ouais, mais après, du coup, pour ceux qui ont fait le jeu de base, peut-être pour pas léser ceux qui ne vont pas acheter le DLC, c'est-à-dire que la fin, quoi qu'il arrive, ça reste la même pour tout le monde. C'est-à-dire la fin de...
Non, mais sans que ce soit une cinématique qui mette fin au scénario du 3, une cinématique qui marque le coup, quoi, où tu dis, voilà, c'est un moment important.
Ouais, parce que là, ça fait un petit peu abrupt, c'est ça que tu veux dire, quoi.
Mm.
Bah du coup, pour finir, c'est, pour toi, c'est un bon DLC qui fait bien le travail, quoi.
Ah, mais totalement, enfin... Pour moi, c'est une belle conclusion. Alors, peut-être que certains lui reprocheront de tomber un peu trop dans l'hommage.
Un peu comme le jeu de base, quoi, aussi.
Oui, comme le jeu de base, mais déjà, je trouve qu'il est plus subtil que le jeu de base. Mais surtout, en plus, je veux dire, il se renouvelle tellement d'un point de vue décor... La direction artistique est tellement... elle est tellement géniale. D'un point de vue level design, c'est le design de Dark Souls à son summum, quoi. C'est, tu sais, c'est le level design où t'arrives en haut de la map et où tu vois tout ce que tu vas faire. Tout ce que t'as pu voir dans la série, c'est là-dedans, quoi. Et ça, c'est quand même fort parce que il y avait quand même pas mal de trucs à fourrer là-dedans, quoi. Et voilà. Alors après... J'ai envie de dire, heureusement que ça s'arrête là, parce que d'un autre côté, on pourra lui reprocher justement que ça peut faire redondant, tu vois, et que il était temps que ça s'arrête, mais ça reste une belle conclusion, quoi.
Après, tu vois, enfin, pour une licence comme ça, c'est, moi je trouve que, concrètement, ceux qui vont acheter des DLC, c'est quand même des gens qui ont acheté quasiment tous les DLC, c'est les gens qui aiment bien les Souls. Du coup, c'est un petit peu normal qu'ils réutilisent les codes à ce niveau-là. Après, on pourra rétorquer un certain, peut-être, laisser aller des développeurs, mais en tout cas, les gens qui payent pour ce genre de contenu, moi je pense qu'ils savent pourquoi ils payent, et t'en as pour ton argent, quoi.
Et concrètement, ce DLC, c'est une lettre d'amour aux fans. C'est la conclusion qu'il fallait pour cette série, elle est là. Autant le précédent DLC, il y avait des choses à redire, le contenu qu'il proposait et le prix, tu vois. Enfin, même si pour moi le précédent DLC gardera le fait qu'il a pour lui ce qui pour moi le boss le plus grandiose de la série. De toute façon, pour moi, ces deux DLC sont indissociables. D'un point de vue narratif, le précédent et l'introduction de celui-ci, pris comme un ensemble, ils valent énormément le coup et il faut les faire. Vraiment, si vous voulez conclure en beauté la série, il faut les faire. Voilà.
Et du coup, parce que tu sais, Dark Souls premier du nom avait le droit à une extension qui était Artorias of the Abyss. Est-ce que, en termes de contenu, tu penses que ce DLC-là correspond un peu à ce DLC-là, c'est-à-dire un contenu quasiment conséquent, c'est-à-dire un peu de la même durée, avec parce que il y a 4 boss, et dans le DLC il y a 4 boss aussi, avec un niveau assez difficile. Est-ce que tu penses, pour ceux qui ont fait le premier DLC de Dark Souls, ça va être un truc à peu près similaire sur le plan purement contenu. Et, ouais, voilà, c'est sympa.
Alors contenu, oui. Par contre, les boss sont quand même moins marquants, quoi. Enfin, je veux dire, d'un point de vue, tu sais, classe.
Ouais.
Alors bon, désolé pour ceux qui n'ont pas joué, hein, fermez vos oreilles, mais je veux dire, dans le DLC avec Artorias, t'as quoi? T'as Calamnit, t'as Manus. Enfin voilà, c'est des boss qui sont marquants, quoi, tu vois, tu t'en souviens, quoi. Alors que ceux de ce DLC-là, autant ils sont intéressants d'un point de vue purement design, quoi, si tu veux, autant d'un point de vue classe, quoi, on va dire.
Ouais, bah, manque après, un truc, quoi, tu vois. C'est enfin, parce que là, tu les as comparés un petit peu aux persos préférés des fans de la licence. Artorias, Manus et Calamnit, c'est un petit peu, voilà, considéré comme les meilleurs boss de Dark Souls premier du nom.
Ouais, mais en même temps, tu vois, ils étaient tous réunis dans le même DLC. Enfin, c'est pour dire que, ouais, voilà, la comparaison, si on commence à partir dans le jeu des comparaisons, elle est un peu injuste.
D'accord.
Mais par contre, je trouve que d'un point de vue level design, c'est vachement plus intéressant que le DLC qu'ils avaient fait à l'époque, quoi.
D'accord.
Parce que, déjà, enfin, le DLC de Dark Souls 1, moi, c'était pas ma zone préférée, si tu veux. Enfin, le début de la zone, ça reprenait un peu la forêt de Dark Souls 1. Et c'est une zone, autant j'aimais bien faire du PVP dedans, autant en tant que zone, tu sais, que tu as à parcourir dans le jeu, j'ai trouvé que c'était pas très intéressant. Parce que c'est une zone qui est assez plate.
Et assez sombre aussi.
Assez plate, assez sombre, ça manque de relief. Et c'est pas une zone que j'ai trouvé géniale d'un point de vue level design. Et même la suite, même si elle était un peu plus variée, enfin, il manquait quelque chose, tu vois. Alors que là, vraiment... C'est le level design de Dark Souls à son summum, quoi.
Mais après, voilà. Les gens retiennent surtout ce DLC parce que l'histoire qui est racontée dans le DLC du premier Dark Souls, c'est vraiment trois histoires qui sont marquantes, quoi, en termes de lore. Ça va être assez compliqué de faire des trucs en termes d'histoire sur des personnages aussi marquants que ceux-là, quoi. Enfin, tout simplement.
Disons que ce DLC, sa force était son histoire, aussi bien d'un point de vue lore que d'un point de vue personnage, mais c'est aussi la classe de ses boss, tu vois.
Ouais.
Alors que ce nouveau DLC, en fait, sa force, c'est son level design, mais c'est tellement une claque, mais une claque immense, quoi. C'est un truc de dingue. Et la sensation de vertige que t'as dans ce DLC, c'est inimaginable, quoi. C'est le DLC, pour moi, qui communique le plus de choses par son environnement, quoi, si tu veux. Et c'est aussi ce qu'ils racontent d'un point de vue lore. C'est très important ce qui se passe aussi dans ce DLC-là. Ils ont des forces différentes, même s'ils se rejoignent un peu vis-à-vis de l'importance de ce qu'ils apportent au lore. Mais ce DLC a vraiment des trucs vachement intéressants pour lui, quoi.
Et du coup, tu m'aides pas trop en ce moment parce que tu m'as vraiment donné envie d'y jouer. Et Dieu sait que je n'ai pas le temps. Donc, merci à toi, Tyran, hein, parce que tu vas me faire replonger dans Dark Souls 3 encore.
Bon, on a fait beaucoup plus que ce que je m'attendais sur le DLC.
En même temps, quand tu mets entre guillemets, sans être péjoratif, mais quand tu mets deux fanboys de la licence, voilà quoi. Enfin, je dis fanboy, mais...
Non, mais surtout, en plus, pour être honnête avec vous, cette critique n'était pas du tout préparée, mais absolument pas. Et ça se sent, contrairement à la critique de Zelda, où là, on avait préparé le truc à fond, tu vois. Là, c'est vraiment du pur émotionnel, quoi, on va dire. Parce que là, le DLC, concrètement, je l'ai fini, quoi. Avant-hier. Et en fait, dans ma tête, je suis encore dedans, quoi. C'est violent.
Et cette émotion nous vient directement des studios Quantic Dream.
Bon, allez, on s'arrête là pour cette semaine à TH.
Ouais.
Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Ciao, ciao.